Les Cascodeurs Podcast, épisode 225, l'épisode du futur. Enregistré le 19 février 2020.
Pour soutenir les Cascodeurs, rendez-vous sur Patreon, patreon.com/lescascodeurs. Merci à vous.
Bonjour et bienvenue au Cascodeur. On est à l'épisode 225 et nous sommes le 19 février. Et je suis avec Audrey avec un épisode news un petit peu mouse costaud. Donc on va voir, on n'essaie pas d'élaguer à droite à gauche pour que ça reste d'une taille raisonnable. Moi ça fait longtemps que j'ai pas fait de news, donc je suis content de venir et voilà. Et puis un bon rétablissement à Arnaud qui a succombé à la grippe classique.
Voilà, la grippe, oui,
voilà. Alors on a d'abord, c'est le début de l'année, donc on avait dans la série des prévisions, il y a Adam Bean qui a justement fait ses prévisions pour 2020. Donc tous les ans il fait un blog, en fait, un post sur son blog, et où il explique les prévisions. En fait, c'était assez bizarre parce que j'ai l'impression que c'est pas vraiment des prévisions, c'est plus des faits réels. Alors peut-être que je vis un peu trop dans le futur, mais bon, en tout cas, il explique que...
Je le savais, tu es un homme du futur, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Et avec Doc, c'est très compliqué. Qu'avec Docker et cette notion de couche, en fait, au niveau des systèmes de fichiers, eh bien, on va voir beaucoup plus les applications Java se découper proprement en couches pour que les choses qui changent le moins souvent soient dans des couches basses. Et du coup, que quand on met à jour l'application, il n'y ait que les couches hautes qui soient mises à jour, notamment vos fichiers de ressources, vos fichiers de vos classes à vous de votre application, un peu moins les librairies que vous dépendez, un peu moins la JVM, un peu moins l'OS, etc., etc. Donc ça a du sens quand on fait du développement, notamment parce qu'on veut déployer le dernier truc. Après, moi, l'expérience qu'on a à Red Hat, c'est que quand on a des problèmes de sécurité, qu'on reconstruit les images. Donc, nous, on a notre arbre de dépendance aussi. Et donc, c'est quand même assez souvent qu'on a des choses à toucher, des couches basses, que ce soit une CVI au niveau de la JVM ou au niveau de l'OS, ou au niveau de, quand, je sais pas, quelque chose est basé sur un serveur d'application, au niveau du serveur d'application et qu'après qu'on reconstruit. Donc, ça aide. Après, il y a quand même toujours des mises à jour. C'est pas comme si l'OS, il a été fait une fois et qu'on n'y touche jamais non plus. Voilà, il parle aussi de micro-profil, et pareil, il parle de cette notion de jar fin qui est sur la couche supérieure des conteneurs Docker. Il parle de Quarkus, donc il explique, il fait un résumé rapide de l'histoire avec la première annonce, et puis son intégration avec, et son évolution en fait sur 2019. Donc il dit que ça va grossir, donc ça c'est bien.
Ouais. Et il parle d'un possible support commercial par Red Hat. J'imagine que si t'as des infos, de toute façon t'as pas le droit de les dire.
Je peux le dire que ça arrive. Je peux pas dire quand, mais on parle déjà pas mal avec pas mal de clients. Donc c'est clairement dans les tuyaux.
Donc il a pas tout faux. Hein. Je sais pas s'il a raison sur tout, mais il a pas tout faux. Enfin,
voilà. C'est pour ça que je te dis, c'est déjà des prévisions. C'est pas des prévisions, ça. les clouds privés vont devenir de plus en plus populaires avec Kubernetes qui devient connaissance de base et du coup ce standard sur lequel tout le monde s'appuie. Et après, des déploiements, il y a Amazon qui a sa version on-premise qui s'appelle Outpost, Google qui a un truc qui s'appelle Anthos qui s'appuie sur VMware de mémoire, sur lequel ils mettent leur Kubernetes. Azure a quelque chose, et évidemment, Red Hat a OpenShift. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses qui qui font que le déploiement privé et pas que uniquement public, voilà, qu'il y ait probablement une couche commune qui est Kubernetes entre tous. Voilà, il amène quelque chose d'intéressant. Il dit, voilà, Java FX is back, et qu'il a bien réussi sa transition. Enfin, c'est une prévision, mais avec sa transition open source et maintenue finalement par la communauté et plus par Oracle avec OpenJFX. Eh bien, il explique, bah voilà, Java FX, ça commence à s'intégrer plutôt pas mal avec GraalVM. Donc, il y a pas mal de choses intéressantes et ça devient une alternative intéressante face à Ionic, dont on parlera peut-être un petit peu après. React Native et Flutter.
J'ai quand même des doutes sur celle-là.
Ouais, je sais pas en fait. Ça a l'air d'exister, non, mais c'est une bonne question.
Ouais, non, mais j'ai mis des doutes.
Ouais. OpenJS, pardon, Node.js est là avec le support ECMAScript 6. Et puis il dit, mais attention, il y aura plutôt un retour avec des choses de base. On a effectivement un retour vers un no framework un petit peu au niveau JavaScript, donc des choses moins lourdes. Je ne sais pas si j'ai bien compris ce qu'il voulait dire, mais je pense que c'est ça. La réduction du nombre de navigateurs, puisque maintenant tout s'appuie sur Chromium en gros, à part Firefox et Safari.
À part Firefox et Safari, ouais, voilà.
Voilà. Là, ouais, les web components, donc migration, bah, c'est un peu dans la même tendance qu'on expliquait au niveau JavaScript.
Ouais, alors enfin, c'est encore sur des axes différents, parce que voilà, l'axe JavaScript, c'était plutôt sur le fait que, en gros, on revient à des outils un peu plus natifs comme Rollup.js ou Snowpack, alors que là, c'est le fait que les web components prennent vraiment de la place par rapport au framework. Et qu'ils vont être de plus en plus adoptés, a priori, ce qui serait cool.
Et du coup, donc on a pas mal parlé des micro front-end en 2019, et donc on explique pareil cette tendance finalement au no framework qui permet d'avoir justement de composer des micro front-end. Et moi, je fais la prédiction du no front-end, et ben, ce sera encore mieux, au moins. On n'aura plus de problèmes, on aura moins de problèmes. Il parle de Function as a Service qui sera en fait un complément en termes de déploiement pour une option intéressante pour des cas particuliers. Moi, ma prédiction, c'est que ça va vraiment pousser encore plus vers les sources à événements sur lesquels on va pouvoir réagir, qu'après ça soit une fonction qui réagisse dessus ou que ça soit des microservices ou des macroservices. Mais en tout cas, cette notion-là, elle est vraie. Et puis cette notion de je peux descendre le déploiement à zéro et le remonter. Ça, c'est un point qui va être de plus en plus déployé. Que ça soit après une fonction telle qu'on le ressent, c'est-à-dire un bout de code qui est vraiment très simple, ça, c'est un autre débat. Voilà, il explique qu'on voit maintenant beaucoup... Enfin, on comprend... c'est vrai que, je sais pas pourquoi, mais pour certains, effectivement, JMS, c'est un peu mélangé avec un système de messaging, alors que ça n'est qu'une API, avec le protocole n'étant même pas défini. En tout cas, il dit, voilà, on voit de plus en plus de différences entre Apache Pulsar, Apache Kafka, et puis...
Et JMS, ouais.
Ok, donc ce qu'il explique, c'est que de plus en plus, effectivement, les gens vont utiliser Apache Pulsar ou Kafka comme l'endroit où il y a la donnée source. Et puis que Jakarta Messaging, qui est donc le nouveau nom de JMS, puisque c'est le nouveau nom, on ne dit plus Java EE Message System, puisque ça, c'est Oracle qui détient les droits, et du coup on appelle ça Jakarta Messaging, gRPC, WebSocket ou JGroup seront utilisés pour les communications microservices, ça c'est sa prédiction. Microprofil sera réalisé avec Wildfly, et donc ça va booster, sa prédiction c'est que ça va booster encore plus la popularité de Microprofil en 2020. Et puis l'interaction entre le support de GraalVM sur plusieurs langages va en fait paradoxalement continuer à booster l'intérêt de Java, puisque ça sera une plateforme pivot là-dessus. Et voilà, donc ça c'était ces 13 prédictions. Vous pourrez relire ça un peu plus la tête au repos, là on l'a fait un petit peu de manière anarchique.
Mais c'est intéressant parce que on va retrouver pas mal de trucs dont il a parlé dans le déroulé de l'épisode.
Bah, c'est ça. Alors après, on est déjà fin février. Donc, peut-être que voilà, tout c'est tellement, tout va très vite maintenant. C'est fini.
Tout va tellement vite.
L'élection de janvier, ça, c'est en février. Voilà. Et donc, on va passer au langage avec JDK14 qui est bientôt arrivé là.
Ben ouais, First Release Candidate le 10 février dernier. Alors, on vous a mis plusieurs articles sur le sujet, notamment un qui est de Brian Goetz, qui est sur la présentation des records, hein, qui est un peu quand même la feature principale, enfin celle qui est beaucoup mise en avant, qui, pour rappel, est en preview feature. Hein, donc, ça peut être amené à changer,
à
c'est bouger, vraiment pour tester.
Tomber, ouais.
Voilà. Et alors l'article est assez intéressant parce qu'il présente un petit peu toutes les spécificités des records. Donc Brian explique que c'est ben il faut le voir un petit peu comme un équivalent des data class en Kotlin. C'est vraiment fait pour avoir un objet qui soit dont les propriétés soient immutables. Elles sont final par défaut. Ça implémente. C'est aussi là pour réduire le boilerplate. Donc on a une implémentation de equals, de hashcode, de toString, etc., qui est automatique. Y a un point sur lequel j'étais un peu moins d'accord avec avec Brian, c'est il le présentait aussi comme un tuple nominal. Alors,
Bah, tu sais ce qu'il veut dire par là. Il veut juste dire que c'est un tuple avec des noms au lieu d'index pour accéder aux données. C'est ça qu'il
ouais,
veut dire.
Mais c'est pour moi, c'est... Ouais. Et... Mais moi, je suis un peu sceptique dans le sens où, si tu veux, pour prendre le point de vue d'un développeur qui utilise le langage, et eh ben, moi, j'utilise pas du tout, par exemple, en Kotlin, les data classes et les tuples de la même façon, parce qu'on a des tuples en Kotlin, on a des paires et des triples, et pour moi, c'est pas du tout la même chose. Pour moi, un data class, et il le dit un peu plus loin, c'est vraiment idéal pour mapper de la data. Alors que le tuple, c'est plutôt quelque chose que je ne souhaite pas persister, tu vois. C'est quelque chose que je vais utiliser à un moment parce que je veux retourner deux ou trois types d'objets différents d'un appel de méthode. Mais c'est pas quelque chose que je cherche à persister dans le temps. C'est quelque chose qui va être manipulé et puis aussitôt pas effacé. Mais voilà. Donc j'étais un peu sceptique sur cet aspect-là. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que un petit peu plus loin. Il revenait sur, alors il insistait sur le fait que ça étant pas un bin classique, hein, ça a rien à voir avec un bin classique, et il revenait sur la différence avec un tuple et le fait qu'un tuple par exemple n'a pas d'état, alors que là vraiment un data class il va pouvoir avoir un état et qu'un tuple ne peut pas non plus avoir de comportement en plus. Alors il y a des choses qui sont hyper intéressantes, par exemple le fait que, et effectivement ça rejoint cette utilisation je pense de tuple nominal, c'est que ça va pouvoir être déclaré localement. Donc par exemple on peut imaginer avec une utilisation dans des streams, ça peut être assez intéressant. Ils seront déjà, ils sont conçus pour être compatibles avec tout ce qui va venir prochainement dans le langage, les field types, le pattern matching, les inline classes, les deconstruction patterns, etc. Et puis présenter également c'est un petit truc sympa que j'avais pas vu jusque-là. Il y a une forme compacte spéciale qui permet encore de réduire le boilerplate, qui pourrait être nécessaire pour des questions de validation lorsque vous déclarez le type. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez déclarer le constructeur, vous n'avez pas besoin de reprendre les paramètres que vous avez déjà déclarés au niveau de la classe. Le constructeur va inférer qu'ils sont dans le même ordre et les reprendre directement.
Ni les assigner aux champs locaux. Ouais.
Voilà.
Enfin, aux champs de classe, pardon. Et moi, bon après c'est Brian Goetz, donc il y a une façon très emphasée d'expliquer les choses. Et effectivement, j'étais pas toujours d'accord sur certaines choses, en tout cas sur ces raisonnements. Après, voilà, et ça explique bien pourquoi c'est immuable, enfin les raisons pour lesquelles ils ont fait ces choix-là. Il y a un autre choix dont ils parlent pas beaucoup, c'est au niveau du choix d'implémentation, parce qu'en fait l'avantage des records, c'est qu'ils vont pouvoir être aligné en mémoire, parce qu'on sait forcément qu'on a tel champ, ensuite tel champ, ensuite tel champ, ensuite tel champ. Donc, on imagine que la JVM, si on fait un tableau de record, il y a des choses intéressantes qui vont pouvoir se passer.
Effectivement, oui, c'est pas du tout abordé cet aspect-là. Ouais.
Ouais.
Mais après, je pense que ça se voulait plus un guide d'initiation, finalement, à ce nouveau type d'objet que... une réflexion sur l'implémentation et les impacts côté mémoire et tout ça, quoi.
Ouais. Et tu parlais de validation, et du coup, il y a un de mes collègues, Gunnar, qui est le lead de Bin Validation, et qui, du coup, a essayé de dire, est-ce qu'on peut utiliser les contraintes Bin Validation pour valider les records, en fait. puisque effectivement Brian montrait qu'on pouvait avoir un constructeur un peu simplifié pour faire de la validation de ce qui rentrait. Et est-ce qu'on pourrait pas non plus faire ça complètement déclarativement avec les annotations bin validation? Et donc la réponse est oui. Et du coup, ça n'est qu'un prototype, mais ça utilise ça plus un peu de bytecode announcement avec bytebuddy pour justement au moment de la création des records exécuter la validation via Hibernate Validator. Et donc c'est uniquement au moment où le record est créé, puisque après c'est immuable. Donc c'est bon. Et puis voilà, donc il explique, il y a des petites limitations qu'il explique à la fin, mais sinon c'est assez intéressant. Et il explique certains détails du fait que notamment les annotations sont copiées sur les champs, je crois, de mémoire, ce qui fait que ça marche juste par défaut avec une validation. Voilà.
J'ai le droit d'être un petit peu taquine.
Oui, bien sûr. Ouais.
C'est intéressant, mais alors par contre, tu perds beaucoup de l'aspect réduction de boilerplate. Hein. Là.
Pourquoi ? Ben non, justement, je trouve que ça est plus, ça raccourcit plus que si tu si t'avais écrire le constructeur de Brian Kutz.
Ça dépend des cas. Hein. Il expliquait le cas où tu fais de la validation sur une data class qui est utilisée dans plusieurs configurations et tu vois les bouts de code qui sortent et tu fais oh. Okay.
Ouais, mais là c'est alors parce qu'au départ il parle de l'invariant de. Ouais, ben c'est pareil avec le truc de Brian Kutz. En fait, le truc c'est que quand ça dépend du contexte, soit t'éclates les validations partout, soit tu réutilise des trucs comme une validation avec la notion de contexte, mais quelque part, ça va un petit peu au-delà du modèle. C'est-à-dire qu'effectivement, les annotations, quand tu commences à dire bah, cette annotation, elle est là pour tel contexte, ça commence à. Du coup, c'est-à-dire que tu en as un autre contexte potentiellement, donc tu les dupliques. Voilà, il y a un surcoût à ce niveau-là. Mais si c'est car at not blank string, at not null, at size machin de la plaque, ça se lit quand même.
Oui, non, je suis d'accord avec toi. Le fait que de pouvoir réduire et puis même aller plus loin, enfin, le code équivalent à ces annotations serait moins lisible. Si tu mets tout le détail du code, toutes les validations dessous, là, tu le lis plus vite. Je suis d'accord avec toi.
Voilà. Après, effectivement, une validation, les abus font que le code devient un petit peu lourd. Ouais. Donc, faut trouver un équilibre. Voilà, et puis...
il était on fire, ton collègue. On a un autre article un de lui. Fire, ouais.
Toujours sur JDK 14, justement. Donc, il y a Flight Recorder, qu'on connaît depuis un certain temps, qui permet, à des coûts assez légers, au moment en prod, quoi, de pouvoir enregistrer ce que fait la JVM. Et puis, ça envoie des événements, en fait, qui sont les événements de la JVM. Et ils ont ouvert ce framework-là. Ce qui fait qu'on peut enregistrer les événements, y compris de... En fait, on peut publier nous-mêmes au niveau librairie ou applicatif des événements qui vont être consommables, enfin enregistrés et consommables par Mission Control, qui est le truc qui lit le fameux Flight Recorder. Donc, il explique comment faire ça, à quoi ça pourrait servir, comment ça pourrait s'intégrer avec un truc comme MicroProfile Metrics pour avoir ces informations-là. Les publier. Et puis surtout, il explique une nouvelle fonctionnalité de JDK 14 qui est de pouvoir
streamer
ces événements plutôt que d'avoir un batch, enfin faire tourner la JVM, l'éteindre et avoir un batch et puis l'analyser. Donc là, on peut streamer ces événements-là et ça devient plus proche de la métrique au sens
Prometheus du terme.
Donc pareil, il est un petit peu long l'article. En fait, tous les truc du langage, pour ceux qui aiment bien le langage, là,
C'est l'épisode.
Mais les articles sont bien longs.
Il est super intéressant cet article parce qu'en plus, il prend un exemple concret comment je monitore une API existante et dont il détaille pas à pas en donnant des conseils comme par exemple, faites attention à ce que vous renvoyez de l'événement, allez pas monitorer tout, etc. Enfin, je l'ai vraiment trouvé très très bien fait.
Ouais. Voilà, alors... Là, on a le gros.
Là, on a celui qui pique, là.
Ou est-ce que je le fais ?
Allez, je le fais si tu veux, il m'a bien plu.
D'accord. Alors, je fais la présentation. Et du coup, c'est un article qui explique le projet Loom, donc avec les notions de fiber en Java. Et en gros, est-ce que ça menace le Java futur, l'objet futur ? Est-ce que ça menace le développement réactif, etc., etc. C'est un article long. Medium dit 19 minutes pour lire. Je pense que si on pause pour réfléchir, c'est même
c'est
plus. Mais c'est très intéressant. Très intéressant.
Voilà. Donc, pour redonner un petit peu de contexte, donc effectivement, le projet Loom, il amène les fibers, qui sont des sortes de threads beaucoup plus light. Il va amener les continuations, ce qui existe déjà, par exemple, dans Kotlin, c'est les coroutines, et ça sert de support d'implémentation fiber. Et puis, bon, plus tard, il y aura les tail call eliminations. L'intérêt d'une fiber, c'est qu'elle va pouvoir être mise en attente sans bloquer le thread sur lequel elle s'exécute. Et quand les conditions pour la reprise de son exécution sont rencontrées, bah, elle va continuer son exécution sur le premier thread qui est dispo. Et il y a plusieurs avantages avec leur... elles ont une très faible empreinte mémoire. D'abord, on va pouvoir en créer beaucoup. Et puis, la suspension et le redémarrage sont des opérations qui sont très rapides.
Ouais, parce que je ne sais pas comment c'est fait, mais j'imagine qu'ils ne font pas la... ça reste dans la même stack où ils ne font pas de la copie des données. Enfin, je ne sais pas comment ils font, mais effectivement, elle est beaucoup plus légère en termes de passage d'une fiber à une autre, ce qui est important.
Ouais. Et donc, à un moment, l'auteur pose la question de bah, qu'est-ce qui ne va pas avec la 5 telle qu'on le connaît. Alors, il revient un petit peu sur les options qui existent aujourd'hui. Alors, les futures, par exemple, c'est très bien, mais ça impose d'utiliser des fonctions comme then, compose, du flatmap, etc., ce qui rend le code un petit peu moins lisible.
Ah bon, c'est toujours plus lisible que le callback.
Le callback L.
Bah ouais.
Ouais. Bah ouais, complètement. Et après, il expliquait aussi, donc là, pareil, problème du futur qui est commun au futur et au callback, c'est que comme chacun tourne dans son propre thread, bah, dans ta struct trace, tu n'as plus le contexte d'exécution. Et puis, le problème, le dernier, mais pas des moindres, c'est que les futures, elles sont virales. Donc quand t'en as mis une, bah, c'est toute ta chaîne d'appels qui va devoir en utiliser.
Et, ouais, c'est pareil alors, pour le réactif, c'est-à-dire que si on veut quelque chose de non bloquant, il faut en termes d'API, on puisse aller de non bloquant de tout en bas à tout en haut. C'est le challenge en fait.
Voilà, et c'est assez intéressant parce que Fiber prend une approche qui est un petit peu différente, c'est de faire comme si tout le code était synchrone. C'est le fameux mantra codes like sync, works like async. Et ça, ça va permettre de rendre le code lisible à nouveau parce qu'on va pouvoir utiliser les structures de contrôle auxquelles on est habitué. Et ça va avoir aussi l'avantage d'être supporté nativement par le langage, donc ça va redonner de la contextualisation à l'erreur. Alors, c'est d'autant plus intéressant que dans l'article, l'auteur fait régulièrement des parallèles avec ce qui existe dans d'autres langages. Cette approche-là, par exemple, c'est l'approche qui est utilisée dans Go. Donc ça résout pas tous nos problèmes hein, évidemment parce que un fiber ça va rester une construction thread-like on pourrait dire, donc il va falloir les orchestrer, il va falloir gérer les annulations, les erreurs, etc. Parce que par exemple l'intérêt c'est que comme les fibers elles sont annulables à chaque yield point, il faut se poser la question de qu'est-ce que devient le code qui devait être exécuté dans les finalizers, etc. Alors on veut pas forcément.
Et ça, c'est un débat. Moi, je trouve que c'est un débat de gens qui font le langage, mais dans la vraie vie, les finalizers, il y a très peu de gens qui en écrivent. Donc, moi, j'étais un petit peu sceptique là-dessus. J'imagine que conceptuellement, pour avoir un truc qui marche dans tous les cas d'utilisation Java possible, imaginable, c'est compliqué. Après, dans la vraie vie,
Bah, là, il prenait l'exemple des finalizers, mais tu pourrais imaginer le cas où, par exemple, tu lances, c'est le cas qu'il prenait, hein, où tu lances des calculs en parallèle et en fait tu n'es intéressé que par le premier qui répond et donc dans ce cas tu vas vouloir annuler les autres parce que ça sert à rien qu'ils continuent de s'exécuter et donc les cas d'annulation il faut quand même que tu les gères ça, mais effectivement vrai. Oui le finalizer c'est un cas un peu plus spécifique mais et donc ensuite le truc c'est qu'on veut pas forcément interagir directement avec une fiber ou en tout cas l'exposer au monde entier donc dans ce cas là ce qu'il va falloir c'est utiliser un IO data type, finalement, c'est une data structure qui va décrire le résultat d'une opération. Et la différence entre une future et une IO, c'est que la future, elle va effectuer une opération qui peut, à un moment donné, produire un résultat, alors que l'IO, elle te décrit comment effectuer une opération qui va, à un moment, produire un résultat en rappelant une fonction. Et l'intérêt d'interagir à ce niveau, c'est qu'on va manipuler une représentation qui va être referentially transparente. Donc, en fait, l'opérateur égal, il a qu'une valeur. Et ça fait qu'on va pouvoir refactorer du code qui inclut des calculs avec du side effect comme du code normal.
Est-ce que tu es capable de l'expliquer aux gens qui sont dépassés là, qui pourraient ou ne pourraient pas être de l'autre côté du micro?
C'est hyper compliqué. Je le vois, je vois comment ça fonctionne, mais alors c'est vrai qu'à expliquer, c'est hyper touchy. Mais c'est le fait que quand vous êtes en train de manipuler des futures, finalement, vous allez être, vous n'avez pas la visibilité de tout ce qui va être impliqué dans la valeur que vous essayez de récupérer, enfin tous les calculs qui vont avoir lieu derrière, etc. Alors que là, avec l'IO, vous allez avoir l'opération. Tout ça, c'est wrappé dans une fonction. Donc, vous appelez votre fonction et en fait, systématiquement, vous aurez le même retour. Mais je ne suis pas sûre que ce soit beaucoup plus clair comme explication.
D'accord. Bon, on va attendre que, je sais pas, que quelqu'un sur la mailing list nous refasse une explication. Ou un crowdcast, qui sait.
Oui, voilà, c'est ça.
La transparence concurrentielle.
Voilà. D'ailleurs, je connais quelqu'un, je vais l'embêter, je vais dire faire un podcast. Non, c'est assez compliqué. C'est vrai que c'est des sujets où entre le comprendre et être capable de l'expliquer, il y a une marge encore.
Ouais. Nous, on n'est que journalistes. Hein.
Ouais, c'est ça, hein, amateurs. Hein. alors, il y a un petit, si on veut résumer un petit peu l'article, que je vous encourage quand même à lire parce qu'il est vraiment intéressant. Il est long, mais hyper intéressant intellectuellement. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. En fait, ça va dépendre du contexte, comme souvent. Sur une petite appli, par exemple, il disait que si tu utilises des Fiber en direct, ça sera très, très bien. Si tu es sur une appli de taille un petit peu plus conséquente, ce serait mieux d'utiliser une IO pour avoir une abstraction voilà, et pas rentrer dans le détail des fibers. Mais si tu vas sur un système, alors bon, c'est un cas d'utilisation plus rare, hein, qu'on ne rencontre pas tous les jours dans notre vie, qui va demander des hautes performances asynchrones, dans ce cas-là, tu vas plutôt directement rester sur du pur, entre guillemets, sur des callbacks ou des futurs. Voilà.
Ouais. Juste un petit truc sur le parce qu'il continue après sur aussi les modèles d'acteurs, la programmation réactive, voire la concurrence structurelle. Je ne sais pas si ça se traduit comme ça, mais il explique qu'il y a encore plein de choses en fait. La back pressure, comment est-ce que ça se gère? Donc on parlait de l'annulation, mais il y a aussi la back pressure, comment ça se gère?
Tout à fait, ouais.
Le fait que quand on écrit des futurs, voire quand on fait du code réactif, en fait, on décrit l'ensemble des opérations qu'on veut faire, et puis finalement c'est un pipeline qu'on peut transporter jusqu'à ce qu'il soit commencé à être exécuté et exécuté. Donc on a vraiment une séparation entre ce qu'on décrit et quand est-ce que c'est exécuté. C'est pas aussi clair dans les fibers. Voilà. Donc il y a beaucoup de richesse dans cet article qu'on vous recommande encore une fois de lire, et voire même de lire tous les 6 mois. Voilà.
Oui.
Voilà. Ensuite il y a un petit article. Alors c'est un deuxième opus d'une série sur les choses un peu fondamentales bas niveau de la JVM, mais qui sont intéressantes, sur notamment visuellement comment la mémoire est gérée. Donc comprendre, si vous n'étiez pas super clair sur qu'est-ce que c'est qu'une stack, qu'est-ce que c'est que le heap, et quelle est la relation entre les deux, c'est l'article qu'il vous faut. Pareil, encore un petit quart d'heure, 20 minutes de lecture. Et notamment, il a fait des slides avec les évolutions visuelles de, tiens, quand je passe de tel morceau de code à tel morceau de code, ma stack se rajoute, ensuite ça crée quelque chose dans la heap, il y a un lien. Donc, beaucoup de choses.
C'est hyper bien fait, hein, cette partie d'ailleurs.
Ouais. C'est plutôt bien fait. C'est l'article d'avant d'ailleurs qui explique très bien la notion de stack et de versus heap, je crois, de mémoire. Et celle-là, après, s'appuie sur cette connaissance-là et explique comment ça se gère la mémoire, notamment au niveau des garbage collectors, et notamment les fameux garbage courts et les garbage longs. Les garbage courts étant la gestion de ce qu'on appelle la génération jeune. Il y a la nursery, Eden, et puis il y a des notions de survivor space qui sont utilisées pour les objets à vie courte, ce qui fait qu'on ne veut pas en fait avoir à se taper toute la pile d'objets, enfin tous les objets qui sont dans la pile en termes de marquage. Donc c'est des garbage collectors courts, et puis après effectivement des fois il faut aller vider la mémoire entière. Donc il parle de ces fameux garbage collectors beaucoup plus longs, et notamment ceux qui sont en mark and sweep, donc il y a un des algorithmes très très communs là-dessus. Il y a un truc que j'avais pas jamais vraiment réalisé, mais c'est vrai, c'est qu'effectivement le point d'entrée, c'est la stack, en fait. La stack a des pointeurs vers des objets de la memory heap qui ont eux-mêmes des pointeurs vers d'autres objets de la memory heap. Et quand ils naviguent pour marquer les objets qui sont vivants, et du coup, de facto, ne pas marquer les objets qui sont pas vivants, ils partent de la stack, en fait. Puisque c'est les objets qui sont référencés et sur lesquels on n'a pas envie de les effacer. Donc ça, c'est un truc que j'avais appris, enfin que j'avais jamais vraiment conscientisé. Donc voilà, très intéressant ouais. là-dessus.
Une bonne base en fait pour tout le monde, tu vois, ouais. qui retourne ouais. aux fondamentaux.
Voilà. Voilà. Et puis si vous avez toujours pas mal à la tête, vous pouvez prendre une demi-heure pour apprendre la syntaxe de Rust. Voilà, donc là, on ne va pas vous le décrire, parce que là, pour le coup, je me suis dit, tiens, ça doit pouvoir se lire en plus vite, mais en fait, non, je pense qu'il faut effectivement une demi-heure.
Il a découvert pas à pas, il reprend bien toute la syntaxe. Donc,
voilà. Donc, une demi-heure à penser pour se dire, qu'est-ce que ça veut dire, Rust, je veux en savoir un petit peu plus. Voilà, on va passer rapidement aux librairies, juste pour vous dire qu'il y a deux, trois choses qui existent.
Ouais, alors il y a Jukebox, qui est une librairie pour créer des builders pour les records. Ouais. Bon, personnellement, le seul intérêt que j'y ai vu, c'est d'avoir des name parameters comme on a en Kotlin. Mais à part ça, j'ai pas trouvé que c'était particulièrement ouais. utile. Et puis, JUnit 5.6 qui est sorti avec des améliorations de performance, de la correction de bugs. Et puis, il y a des nouvelles annotations où il y a l'amélioration d'annotations existantes. Voilà.
Ouais. Pour ceux qui font des librairies, il y a Enable for jQuery Range. Donc, c'est pour définir, je veux tester ça sur JDK 8, 9 et puis celui-là sur 12, 14. Donc, ça, c'est intéressant. Voilà. Et puis, on parlait, on va passer au middleware et on parlait justement des images Docker. Et donc, Spring Boot se lance un petit peu là-dedans. Donc, en tout cas, il y a un article de Philippe Webb là-dessus.
Ouais.
Alors, je t'avoue que j'ai pas tout compris exactement la différence entre les layer jar et build pack et en tout cas l'interaction entre les deux. Mais en tout cas, les layer jar, c'est ce qu'on expliquait, c'est-à-dire d'appliquer les couches basses du layer Docker qui a les choses les plus stables, donc les librairies Spring Boot ou vos dépendances. Et après, au-dessus, les classes et les ressources et les choses-là dans des layers différents. Alors, ils ont un truc un peu à 5000 couches, donc il y a un peu plus de complexité là-dessus, notamment les snapshot dépendances sont un peu plus éphémères que les dépendances classiques, voilà. Donc ils expliquent un petit peu tout ça. Et alors Buildpack, j'ai moins compris.
Le Buildpack, il est là pour solutionner le problème que tu as avec les fat jars qui sont non unpacked, je ne sais pas comment bien le traduire.
Non éclaté, ouais.
Non éclaté. C'est-à-dire que ça va entraîner de l'overhead run, ce qui va devenir gênant dans un environnement containerisé. Et donc le mieux normalement, c'est d'éclater et de faire tourner une forme explosée. Et un Buildpack, c'est un outil qui rend votre code exécutable sur une plateforme cible. Et jusqu'à présent, c'était complètement lié à la plateforme en question, mais justement maintenant ça ne l'est plus. Et Cloud Native Buildpacks va vous permettre, enfin permet en l'occurrence ici à Spring, de créer des images Docker qui vont tourner partout. Et donc là en fait dans cette version 2.3.0 Milestone 1, Spring Boot inclut le support de Buildpack pour Maven et Gradle. Donc vous avez juste une commande à lancer et ça va faire tout ce qui, ça va faire cet éclatement de fat jar qui est nécessaire pour pouvoir après le faire tourner correctement sur n'importe quel cloud provider.
D'accord. Okay.
Et à ajouter, c'est que l'équipe est preneuse de feedback avant la release finale qui arrive fin avril. Donc, voilà, si jamais
là,
vous vous en
servez. C'est la Milestone 1 de 2.3.
Voilà.
Quarkus 1.2 est sorti il y a un certain temps déjà, voilà, le 28 janvier. Avec les gros trucs, c'est le support de GraalVM 19.3.1. Si vous êtes dans l'univers Quarkus, vous avez suivi un peu la saga où il y a eu des petits soucis entre GraalVM et Quarkus en termes de support, mais on a pas mal travaillé ensemble. Donc, la 19.3.1 maintenant fonctionne parfaitement avec Quarkus 1.2. Et du coup, ça veut dire JDK 11. Yeah!
Woohoo!
Donc, on vous encourage en fait à baser vos projets Quarkus sur JDK 11. Alors, c'est marqué en prévu pour la compilation native dans GraalVM, mais cela dit, on a vu une petite augmentation de temps au niveau de la compilation, mais au niveau de l'exécution, ça a l'air de bien rouler. On avait vu des grosses consommations supplémentaires de mémoire, mais qui ont été corrigées dans la 19.3, notamment dans la 19.3.1. Donc, je vous encourage à migrer, surtout si vous allez à la recherche des images mémoire petites. On a fait un travail entre l'équipe OpenJDK, l'équipe GraalVM et l'équipe Quarkus. Voilà, et puis le support d'annotations qui vous permettent de cacher les résultats de certaines méthodes. Et donc, on y est allé un petit peu doucement, c'est-à-dire on a vraiment la version minimale qu'on estime la plus utile, et puis petit à petit, on va rajouter des choses dans la version programmatique de ça, etc. Donc, on a besoin de retour aussi, donc aller sur Quarkus Dev, vous avez Quarkus.io/community, et puis donnez-nous du feedback. Il y a quelques Français qui sont impliqués là-dedans, notamment Katia, un petit peu Guillaume, moi. Donc, donnez-nous du feedback. Voilà, un peu plus de choses sur les métriques, une amélioration au niveau de l'intégration avec Vault, au niveau du stockage des secrets. Et puis, alors vous savez que Netflix, leur stack open source, là, elle est pas mal dépréciée, notamment Istrix.
Elle est à l'arrêt, oui.
Small Rive Fault Tolerance, qui implémente MicroProfile Fault Tolerance, s'est appuyé sur Istrix. Donc maintenant, ils ne sont plus dépendants de ça. Ils ont écrit leur propre moteur. Donc, ils se sont mis à jour là-dessus. D'autres choses intéressantes au niveau d'Hibernate ORM et des choses comme ça.
On peut peut-être préciser que l'ajout de métriques par défaut, c'est un travail, c'est toujours un work in progress, ça continue. Et l'équipe suggérait que ça peut être une bonne première contribution. Si vous souhaitez contribuer à Quarkus et que vous ne savez pas par où commencer, c'est un truc dont ils sont preneurs.
Voilà, vous voyez une extension, vous dites, ah, mais ça serait bien qu'elle publie des métriques potentiellement. Et du coup, c'est un travail un peu sur le côté qui se prête bien à une première initiative. Il y a des choses au niveau du moteur de template. Donc là, maintenant, on peut utiliser le moteur de template pour écrire des emails avec l'extension Mailer. Donc ça, on continue à avancer là-dessus. Et puis, on a abandonné Alpine en image de base par défaut pour utiliser Universal Base Image, qui est un dérivé de Fedora, de RHEL. Et voilà, ça sera vers ça qu'on va. On en a parlé un peu des histoires autour de Alpine, de sa maintenance, du fait que il y a des la libc par exemple, c'est pas exactement la libc, c'est une version alternative de la libc avec du coup des comportements légèrement différents. Donc voilà, on s'appuie plutôt sur UBI maintenant. Voilà, et beaucoup d'autres choses. Et puis là, 1.3, de toute façon, arrivera incessamment sous peu.
Avant le prochain épisode news, c'est ce que tu sous-entends.
Oui, définitivement. Oui. ensuite, un petit article de Lunatech, donc de Nicolas Martignol plus précisément, sur Quarkus, son ressenti, pourquoi lui, ça le titille bien. Voilà, donc si vous voulez lire ça et son retour là-dessus, c'est intéressant.
Et en plus, il y a deux projets qui sont publics et qui sont référencés dans l'article pour montrer le fonctionnement de Quarkus sur une application réelle.
Ils ont repris des applications qu'ils ont eux et ils les a réécrits. Ouais. Et puis Micronaut 1.3 est sorti, et notamment la version finale de Micronaut Data qui est sortie. Donc ça, c'était tout début février. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en plus? J'ai pas tout compris ce que c'était, les Immutable Configuration Properties, mais en tout cas, elles sont là.
Ouais.
Ils ont amélioré le support de cache.
Voilà, il y a le support de EAcache, Hazelcast, InfiniSpan et même plus. Il y a le début du support des coroutines Kotlin et de Flow. Support de RLVM 19.3 aussi, support de la sérialisation et désérialisation XML avec Jackson. Il y a des améliorations de performance et de la conso mémoire. Et puis, on a déjà, Micronaut Data 1.0, ça inclut le support pour JDBC et Hibernate JPA. Et la Micronaut, la version 2.0, elle embarquera Reactive Micronaut Data pour SQL, Neo4j, MongoDB, le support d'HTTP2, l'amélioration du support de serverless, des nouveaux plugins de build pour Maven et Gradle, et puis encore d'autres améliorations de perf.
Voilà, ça bouge, c'est cool. Alors, on va passer à l'infrastructure, avec Kubernetes qui a annoncé son programme de...
Bug Bounty.
Ouais, j'ai essayé de trouver la traduction.
Je ne saurais pas le traduire, celui-là. Hein.
Ah, c'est le Bounty quand tu trouves des bugs. Le petit Bounty au chocolat. Non, c'est un bug bounty qui est un truc qui se généralise pas mal dans les boîtes, notamment qui ont de l'argent et qui ont surtout des propriétés, que ce soit des API ou des propriétés web qui veulent sécuriser, que ce soit Uber, Google, Apple, etc. Voilà, donc ils ont mis en place leur programme. J'ai pas lu tout le détail, mais c'est en gros, vous trouvez des vulnérabilités sur Kubernetes et ils vous payent si, pour le pour les avoir trouvés et puis pour les annoncer de manière correcte, comme on dit. Bref, enfin, sans perdre de zéro day, des trucs comme ça. Voilà.
Alors, on peut citer ce qui les intéresse plus particulièrement. Ils recherchent tout ce qui est escalade de privilèges, attaque sur cluster, bug d'authentification, exécution de code remote, soit sur le Kubelet, soit sur le serveur d'API, les changements de permission inattendus, les leaks sur un workload, mais aussi tout ce qui touche à la supply chain, donc le build et le process de release, tout ce qui donnerait un accès pas autorisé au commit ou qui permettrait de publier des artefacts non autorisés. Voilà.
Yes. Cloud maintenant, si vous êtes intéressé par Google Cloud et que vous voulez en savoir plus ou former sur une petite journée en restant dans votre fauteuil à regarder YouTube, eh bien il y a les gens de Sphere emmenés par Didier qui ont fait, je crois, 5 heures de contenu sur...
C'est ça, ouais.
Voilà, là-dessus, et c'est gratuit, donc vous pouvez aller...
Il y a 19 modules sur YouTube, ouais. Voilà.
Voilà, 19 divisé par 5, vous voyez que ça peut se consommer en petits morceaux assez facilement. Donc ça, c'est plutôt pratique si on veut se dire, bah tiens, je vais en faire 20 minutes, une demi-heure par jour, hein, par exemple, sur quelques jours. Voilà, et puis justement, en parlant de Kubernetes, Elastic Cloud a sorti son support pour déployer Elastic Cloud sur Kubernetes, et notamment a écrit un opérateur donc qui vient de... technologies de CoreOS, là, qui sont en gros l'installation du logiciel, donc dans ce cas-là de Elasticsearch, ainsi que, en gros, sa maintenance semi-automatique, ce qu'on appelle les day two operations. Donc, une fois qu'on a installé, une fois qu'on a acheté, on est tout content, et puis qu'est-ce qui se passe les jours d'après? Voilà. Et donc, c'est intéressant. Il y a quand même un mouvement de l'industrie sur, notamment ceux qui se déploient sur Kubernetes, d'avoir des opérateurs pour vous faciliter la vie et avoir une expérience comme si vous étiez sur un cloud, mais de déployer là où vous voulez. Donc un peu en as a service. Et là, c'est là où je vais parler moi. On va parler de web. donc Angular 9 est sorti. Alors, c'est encore une version majeure, mais celle-là, elle est plus majeure que les autres, quoi.
Ouais, exactement. Compris. Elle est vachement plus majeure que les autres parce que, ça y est, le projet Ivy est arrivé, pour de bon.
C'est quoi Ivy?
Ivy, non mais attends, Manu, t'écoutes pas les cascodeurs, c'est pas possible, on en a déjà parlé, hein. Bon, Ivy, c'est le nouveau compilateur et le runtime par défaut. Sur lequel l'équipe travaille depuis déjà un moment et qui donc jusque-là tu pouvais faire un opt-in dessus depuis quelques versions, mais là ça y est, ça devient celui par défaut. Alors il y a plein d'améliorations qui arrivent avec Ivy, notamment on va avoir des bundles de plus petite taille avec notamment le tree checking, donc on va supprimer les parties d'Angular qu'on n'utilise pas et on va générer moins de code pour chaque composant. Ils annoncent 30% de réduction pour les petites apps et 25 à 40 pour des grosses. Il y a plein de choses, plein de nouvelles améliorations qui arrivent. Il y a des tests plus rapides parce que l'interface testbed a été refactorée. Donc maintenant, elle ne récompile que les composants qui ont été modifiés entre deux tests, ce qui permet d'avoir des tests qui tournent 40 à 50 fois plus vite. Il y a un meilleur debug avec un nouvel ng-object qui va permettre d'avoir accès aux composants, aux directives.
Tu peux m'expliquer un truc? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par compiler, en fait, dans l'univers Angular? Donc, t'écris des trucs en JavaScript ou en TypeScript? Non, TypeScript, ouais. Du coup. Et là, t'as un transpiler qui va aller réduire le bout de code, mais ça reste quand même du JavaScript ou il compile en...
Non, ça reste du JavaScript. Mais non, ça reste du JavaScript, ouais. Mais effectivement, le code va être optimisé. C'est ce fameux truc complètement illisible. Donc ouais, le nouvel ng-object, il vous permet d'avoir accès aux composants, aux directives, il va vous permettre d'appeler des méthodes et de changer directement l'état d'un objet ou d'appeler la méthode applyChanges pour voir les résultats d'une détection de changement. Les CSS classes et le style binding sont améliorés. Donc par exemple, si vous avez plusieurs styles qui sont définis pour le même composant, ils vont être mergés d'une manière qui soit prédictible et ça va être la plus spécifique qui gagne. Sauf dans le cas de ng-style et de ng-class, donc le fonctionnement reste identique pour le moment pour des questions de compatibilité. Le type checking va devenir plus complet avec deux nouveaux flags. Donc il y a le flag full template type check qui va permettre de dire au compilateur de tester tout dans les templates, y compris le code qui est embarqué dans les ng-if, les ng-for, les ng-templates, etc. Et vous allez avoir l'option strict templates qui là va permettre d'appliquer le type system le plus strict possible. Les messages erreurs ont été rendus plus clairs. Le time du build a été amélioré par l'utilisation de la compilation ELF time qui est maintenant par défaut, y compris en dev mode. Donc, c'est de l'ordre de 40% d'amélioration hein, quand même sur le temps du build. Ça, c'est ce qu'ils ont vérifié.
Ça prenait des plombes, donc c'est 40% plus. 40% des plombes, donc ça reste quand même des petites plombes. Mais...
oui, mais c'est des petites plombes. C'est toujours ça de prix, monsieur. L'internationalisation est améliorée. Alors ça, c'est simplement qu'en fait, ils ont déplacé le processus de substitution plus tard dans le process de build. Donc d'abord, ils compilent et ensuite, ils font la substitution et ils peuvent même la faire en parallèle, ce qui rend l'internationalisation de la partie, cette partie-là du build, 10 fois plus rapide. Ng-update devient plus fiable. Donc c'est-à-dire que depuis la 8.3.19, déjà, il utilise systématiquement la version cible durant une update pour profiter des avantages de celle-ci. Mais maintenant, il donne également plus d'infos sur l'état de la migration. Et il y a un nouveau flag, un flag create commits, qui va vous permettre de débugger la migration. Donc pendant qu'il l'a fait, il vous rajoute des commits et il vous permet de repasser pas à pas au cas où au cas où le résultat ne serait pas concluant et que vous voudriez débugger la migration. D'ailleurs, en ce qui concerne la migration, il est recommandé de d'abord passer sur la version finale de la 8 et ensuite de passer sur la 9. Alors vous avez un guide d'update, update.angular.io, et il y a toujours, parce qu'on vous a mis aussi les articles en complément, les articles de nos copains de Ninja Squad, qui sont toujours hyper intéressants, et Cédric maintient toujours cet outil d'aide à la migration qui s'appelle Angular CLI Diff. Et lui, il recommande, si jamais vous rencontrez des soucis, soit vous restez sous la 8, soit vous passez sous la 9, mais vous désactivez Ivy dans ce cas-là. Ensuite, il y a alors un truc que j'ai trouvé intéressant, il y a un filet de sécurité pour les composants. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin, quand vous écrivez vos tests, de vous baser sur les sélecteurs CSS pour retrouver un composant pendant l'écriture du test. Vous allez pouvoir l'appeler de manière beaucoup plus prédictive et plus simple et déclencher un événement. Donc là, ce qu'ils appellent component harnessé, ça va faire partie du component dev kit. Il y a des nouveaux composants. Il y a un YouTube player et il y a un composant Google Maps. Une amélioration de l'autocomplétion dans Visual Studio Marketplace. Il y a le support de TypeScript 3.7. Alors, de toute façon, la version 9 nécessite au moins la 3.6. Et ils en ont profité pour mettre à jour les versions de Zone.js et de RxJS. Et puis, sur la partie plus spécifiquement 9.0, la CLI, il y a un nouveau flag Experimental Rollup Pass pour la commande ng-build qui va vous permettre justement de tester Rollup, mais qui précise bien que c'est en mode expérimental. Vous avez également maintenant la possibilité d'ajouter un type à la commande ng-generateComponent. Ça, c'est assez intéressant. Et vous pouvez également, ça je pense que c'est quelque chose qui était assez attendu, utiliser plusieurs configurations en une seule fois. Vous avez un flag maintenant moins configuration sur la commande ng-build et vous allez pouvoir composer vos configurations plutôt que de dupliquer entre, par exemple, une configuration production et une configuration fr ou des choses comme ça. Voilà.
Ok. Sinon, il y a donc sur l'outil Cypress, qui est un outil de test, mais des interfaces dans le navigateur, eh bien, il n'avait pas le support de Firefox. Et du coup, c'était une grosse demande. Et ça y est, c'est le cas dans Cypress 4.0. Et il supporte du coup aussi, enfin pas du coup, mais il se trouve qu'il supporte aussi Microsoft Edge Browser, qui lui se base sur Chromium.
Voilà. Donc, Cypress jusque-là ne supportait que Chrome, ce qui était un franchement limitant pour un outil de test end-to-end. Et donc, voilà, ils annoncent. Alors, par contre, je suis un peu embêtée parce que j'ai cherché dans la doc et je n'ai pas trouvé depuis quelle version de Firefox ils le supportent. Et pareil pour Edge. Alors, Edge, je suppose, mais c'est vraiment moi qui suppose, que effectivement, ça va de pair avec ce nouveau Microsoft Edge basé sur Chromium. Mais j'aurais bien aimé avoir les versions quand même. Bon, je ne les ai pas trouvées. Et donc, oui, dans foulée, on peut passer sur la news d'après. Le nouveau Microsoft Edge est disponible. Donc, il était annoncé il y a un an. Il est entièrement basé sur Chromium. Il a enfin un logo qui ne ressemble plus à IE. Hein, il était temps. Donc les objectifs
d'ailleurs,
de cette migration.
Il ressemble à Firefox, mais bon, c'est pas de paradoxe.
Bah, il est, ouais. Effectivement, il y a un petit truc, ouais, c'est vrai. Alors, effectivement, comme le disait Adam dans ses prédictions, en fait, c'est pas forcément une bonne nouvelle dans le sens où ça réduit le nombre d'acteurs sur le marché. Par contre, c'est une bonne nouvelle en termes de support des normes web. Et donc les objectifs, justement, de cette migration, c'était en effet d'avoir une meilleure compatibilité pour tout le monde, d'avoir moins de fragmentation pour les développeurs web, et puis de monter un partenariat avec la communauté Chromium pour participer au développement de Chromium. Donc là, dans les fonctionnalités qui sont livrées avec ce nouveau Edge, il y a plein de trucs, il y a le streaming 4K, il y a le Dolby Audio, il y a le support, alors non, ça je crois que c'est à venir, le support des extensions Chrome, et puis ils mettent en avant, mais bon, c'est pas non plus foufou, ce qu'ils appellent le privacy promise. Donc c'est ce que font déjà tous les autres navigateurs, hein, c'est-à-dire vous permettre, vous assurer un minimum de vie privée dans votre navigation sur Internet avec un mode privé, oui. Ça me paraît être la base. Et puis ce qu'ils appellent tracking prevention, qui est activé par défaut. Avec trois niveaux de contrôle différents et qui va vous permettre de bloquer justement le tracking dont vous êtes la cible.
Ouais, on en reparlera un petit peu après. Rapidement, Ionic 5 est sorti. Donc c'est un truc qui permet d'écrire vos applications mobiles, mais multi-support. C'est ça, hein ? Et du coup, ils ont...
C'est exactement ça.
Voilà, le gros travail, c'est qu'ils supportent maintenant le design de iOS 13, non seulement au niveau rendu visuel, mais aussi finalement des approches de développement d'interface utilisateur qui ne supportaient pas avant, notamment que le titre, je ne sais pas si vous avez noté, si vous utilisez un téléphone Apple, mais les titres, ils sont gros, et puis quand vous scrollez, ils se mettent à être plus petits. Voilà, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles, du coup, ils offrent le support pour faire ce genre de rendu visuel, et puis beaucoup d'autres choses. Alors, c'est une version majeure, mais a priori, la migration ne va pas être non plus trop compliquée, mais ça reste une version majeure parce qu'ils s'engagent sur le semantic versioning, et du coup, voilà.
Exactement. Ah mais c'est super, je vais pouvoir te passer la main sur la rubrique web, là je te sens à fond.
Bah t'as vu hein.
Ouais.
Alors on va passer à l'outillage et des outils par-dessus Maven notamment. Le premier c'est un outil qui vous alerte sur les groupes ID qui sont obsolètes ou qui ont bougé vers un autre, donc ils prennent l'exemple du starter pack là, de GraphQL pour Spring Boot qui a changé de référence. Mais il me semblait que dans Maven, on pouvait faire des forwards de référence. Bon, bref. Et du coup, là, ça vous fait un warning, ça vous pète le build. Du coup, vous mettez à jour et puis ça se passe bien. Donc, petit outil utile.
Alors, ça marche avec Maven 3.3 et au-dessus et le JDK 8. Et il y a un lien vers l'équivalent Gradle dans le GitHub, si vous voulez.
D'accord. Et alors, il y a Jason Van Zyl qui a écrit une version alternative au Maven Assembly plugin qui s'appelle Provisio, qui fait un certain nombre de choses, mais comme je ne sais pas exactement ce que fait le Maven Assembly plugin, je ne sais pas ce qu'il manque.
Bah je le connais pas assez bien non plus. On comptait un peu sur Arnaud hein, pour nous expliquer en détail cette partie-là, parce que du coup, je ne sais pas non plus pourquoi il a...
Ouais, on lui demandera de faire un podcast.
Peut-être qu'il sera remis.
Voilà, et puis un petit truc tout bête, mais Jason aussi a aussi écrit un petit script bash qui permet d'extraire la version de votre projet Maven, donc qu'elle soit héritée du parent ou pas. Et du coup, ça, c'est dans l'esprit Unix, c'est une petite commande qui fait juste ça, qui va lire le POM et extraire et sortir dans le output 1.0.0 ou peu importe. J'imagine qu'il avait ce besoin-là et que du coup c'est assez utile pour au lieu d'avoir à ouvrir le POM et regarder à la main ou de s'écrire un grep. Ouais, et puis on vous l'a fait déjà dit, mais Maven Central ne supporte que HTTPS maintenant par défaut. Donc si vous recevez un truc qui vous dit HTTP required, une erreur 501 avec un contenu du body HTTP qui vous pointe vers un truc qui s'appelle HTTPS, ben vous savez pourquoi vos builds pètent. Si vraiment, 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 vous ne pouvez pas supporter HTTPS parce que, je ne sais pas, Il n'y a pas de raison, mais il y a encore un moyen d'y accéder, mais c'est une URL différente qui s'appelle insecure.repo1.maven.org/maven2.
Mais en gros, qui vous fait bien sentir que vous devriez être sur HTTPS.
Voilà. Donc, rajoutez un S et ça ira. Et voilà. Et en gros, c'est ça la réponse. Vous rajoutez un S là où vous utilisez le repo Maven et vous avez résolu le problème. Gradle, à toi.
Ouais, Gradle 6.2, alors qui amène des belles modifications aussi. Il y a ce qu'ils appellent la vérification des dépendances, qui va permettre de vérifier la signature des dépendances et des plugins qui sont utilisés pendant le build, de manière à s'assurer qu'il n'y a pas de code malicieux qui est introduit ou qui est exécuté.
Donc ça, ça passe par un petit fichier. D'ailleurs, c'est toi qui les enregistres, le checksum, et c'est local, c'est-à-dire que...
Exactement, ouais. Ouais. C'est-à-dire que tu maintiens un fichier XML avec ces signatures-là.
Tu maintiens un fichier XML, mais ouais. C'est YAML, messieurs, c'est YAML, mesdames. On ne fait plus du
non,
XML.
Non, bah même. Écoute, pas tous. Il y a un cache de dépendance partagée. Alors, c'est dans le cas des builds de conteneurs, ce qu'on a des conteneurs éphémères. On peut avoir un dossier partagé qui va contenir toutes les dépendances en commun, qui sera en mode read-only. Il y a un... alors, declaring exclusive repository content, je ne sais pas là comme ça comment le traduire.
Ben, en gros, c'est dire bah, moi, comme ma compagnie, ça ne doit advenir que de ce repo et ne va pas le chercher pour central ou ailleurs.
Exactement, ça permet de se passer de cette étape-là en déclarant précisément cette dépendance-là, c'est toujours dans ce repo-là. Il y a des liens maintenant quand vous avez des messages de dépréciation, vous avez le lien vers la doc et ça va vous permettre de comprendre pourquoi elle a eu lieu et puis comment migrer vers une nouvelle API. Et il y a une vérification maintenant du Gradle Wrapper. Alors en fait, le Gradle Wrapper, c'est un blob binaire de code exécutable qui est checké par des millions de repositories et ces modifications, elles ont des impacts assez forts en termes de sécurité. Donc il y a maintenant une GitHub Action qui vous permet, qui permet à vos projets de vérifier automatiquement que le Gradle Wrapper jar de leur repo, c'est bien celui qui est release par Gradle. Voilà. D'accord. Et puis on peut passer à IntelliJ directement, je pense.
IntelliJ, ouais, il y a pas mal de
la version 2021.
Ne pas confondre avec 2021. Et notamment le fait de, je sais pas si vous l'avez déjà eu, mais c'est genre tiens, je veux un nouveau JDK. Alors attends, faut que j'aille l'installer. Alors par exemple, je peux utiliser un truc comme SDKman. Ensuite, faut que je le déclare dans IntelliJ. Donc là. À partir de l'interface où on déclare en fait un JDK dans IntelliJ, on va pouvoir dire installe-moi cette nouvelle version. Donc ça c'est tout bête mais c'est assez cool.
Y compris quand vous ouvrez un projet existant avec une version du JDK que vous n'avez pas en local. C'est vraiment chouette.
Ouais. Ils continuent à aider les gens qui expérimentent avec Java, les non LTS de Java, donc notamment un support sur les records et le pattern matching.
Ouais.
Des petits trucs pour quand on est en train de taper, de travailler sur une classe et on appelle une classe et on se dit ah, tiens, c'est quoi déjà ces champs, etc. Donc on a le Quick Type Definition qui en fait affiche le morceau de code le plus contextuellement intéressant pour
tu prévisualises la classe carrément.
Ouais, c'est ça.
De ce que j'ai vu. Ouais.
Voilà. Une nouvelle fonte. Ils ont même fait un site web qui démontre en fait ce qu'ils ont fait. Donc notamment les non majuscules sont plus grandes pour qu'elles soient en gros plus visibles puisque ça reste dominant les non majuscules. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre de super intéressant? Bon, enfin, le site web est bien fait. Il y a notamment les ligatures, c'est-à-dire lier deux quand on fait un égal supérieur, par exemple, est-ce que ça fait une flèche ou est-ce que ça laisse égal supérieur? Donc, eux, ils ont fait des ligatures, c'est-à-dire un truc qui représente un seul caractère à partir de trois caractères écrits. En fait, c'est effectivement trois caractères, mais qui sont liés, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est un seul. Moi, personnellement, je suis pas hyper fan, mais parce que je préfère voir les caractères explicitement. Du coup, je sais pas si on peut l'activer ou le désactiver, ce truc-là.
Je pense qu'il faut que tu désactives la fonte, ce qui est toujours possible, mais comme cette nouvelle fonte devient la fonte par défaut, à mon avis, il faut que tu la désactives.
En tout cas, elle est open source, vous pouvez l'utiliser où vous voulez, y compris dans d'autres IDE, alors dans les anciens IDE IntelliJ et aussi dans les IDE qui ne sont pas IntelliJ. Donc, vous pouvez vous amuser avec ça. Voilà, alors du coup, on va revenir à IntelliJ 20.1. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant?
Il y a l'amélioration du support de Git.
Ouais.
Enfin, ça, c'est une. Moi, je suis une grosse fanat de la ligne de commande. Donc, mais bon, maintenant, vous pouvez faire. Il y a une la pop-up branche, elle a un champ de recherche explicite. Le refresh button, il met à jour les remote branches. Vous avez une nouvelle fenêtre de rebase interactif. Ça s'appelle rebase interactif à partir d'ici. Où vous pouvez vraiment faire toutes les commandes du rebase interactif et les visualiser. Ouais. Ouais. Du côté des outils de build, l'auto-import est supprimé. Tout comme la fenêtre, vous savez, cette pop-up là qui sautait tout le temps pour vous suggérer les modifications avant que l'update du script elle soit terminée. Bon, bah ça c'est remplacé par une notification flottante qui va vous inviter à charger, qui va vous inviter à charger les changements. Et puis dans la version Ultimate, il y a 2-3 trucs sympas. Il y a l'autocomplétion et la navigation dans les SQL statements et dans les champs pour les librairies tiers comme R2DBC. Il y a du full code inside support pour les clients SQL réactifs dans Micronaut et Quarkus. Il y a de l'autocomplétion pour Android Valley. Android Valley, c'est une librairie pour faire des appels HTTP en Android.
VO2LEY.
Ah, j'ai lu Valley partout, moi. Ok, bon. Pardon.
Et je suis mitigé sur le auto-import qui n'est plus par défaut, là, qui n'est plus activé. Je t'avoue que sur ma veine, ça marchait plutôt bien, c'était ouais. automatique et je trouvais ça bien, mais bon, on va à voir ouais, dans la vraie vie.
À voir au test en fait, ouais, je suis d'accord avec toi.
Voilà, on va passer à la partie loi, société et organisation.
Ouais.
Le premier, c'est l'Union européenne qui a, alors c'est un, je sais plus comment ils appellent ça, un white paper, mais qui envisage de faire un moratoire sur l'utilisation de la reconnaissance faciale dans l'Union européenne, se donner 1 an, 3 ans, 5 ans, je crois que c'est 5 ans.
Là, c'est entre 3 et 5 ans.
Voilà. Histoire de voir un peu les impacts sociétaux et de pas de pas aller trop vite là-dessus.
Voilà.
Et donc, ça résonne bien avec une expérimentation à la mairie de Marseille, donc je vais te laisser.
C'est ça. Alors, donc là, en fait, à la fin du mois, il y aura un papier blanc qui sera publié justement par l'Union européenne et qui va proposer 5 options pour réguler l'IA dans l'UE. Il y a ce qu'ils appellent la labellisation volontaire. Donc ça serait un espèce de label par lequel les développeurs choisiraient, donc, sur une base volontaire, de respecter les critères requis pour une IA éthique et digne de confiance. Il y a des critères pour les administrations publiques et l'usage de la reconnaissance faciale. Donc, ça serait la définition d'un nombre de critères minimum pour les administrations qui souhaiteraient utiliser un système de décision automatisé. Donc là, on se baserait finalement sur ce qui est déjà en place au Canada. Et en ce qui concerne la reconnaissance faciale, ce serait de rappeler que conformément aux dispositions du RGPD, les citoyens devraient avoir le droit de ne pas être le sujet d'une décision qui est basée sur un processus automatisé, ce qui inclut le profiling. Le troisième point, ce serait d'avoir des critères qui soient indispensables et qui soient basés sur les risques liés aux applications sensibles. Donc, c'est-à-dire que la mise en place d'outils légaux, elle serait seulement appliquée aux applications de l'IA où le public serait en danger ou bien où, quand il y aurait un intérêt légal qui serait en jeu. C'est-à-dire que pour être considérée à risque, une application devra remplir un de ces deux critères. Soit elle fait partie d'un secteur sensible, santé, transport, police, judiciaire, ou bien elle présente un risque potentiel de ramification légale et elle pourrait amener à un risque de décès, de blessures ou de dommages matériels significatifs pour l'individu. Le quatrième point, c'est la partie sécurité, responsabilité.
Attends, je comprends pas là, du coup, c'est si tu rentres dans ces catégories-là, tu as le droit de faire de l'IA ou c'est l'inverse ?
C'est justement, si tu rentres dans ces cas-là, c'est qu'il va falloir, il y aura un certain nombre de critères mis en place, enfin, en tout cas, c'est ce que j'en comprends moi, pour que un certain nombre de critères que tu devras justifier pour mettre en place l'IA et que tu vas pas pouvoir le mettre comme ça en place partout où ça t'amuse. Justement, ça va être, il faudra que tu puisses quand même le justifier de manière sensée, ce qui n'est pas tout à fait le cas à l'heure actuelle, hein, dans la plupart des cas d'utilisation. La partie sécurité et responsabilité, alors là, c'est en fait, ça se penche sur tous les ajustements qui vont être nécessaires au niveau de la législation européenne existante, parce que en fait, cette partie-là, elle pourrait en avoir un impact sur d'autres législations déjà en place. Et puis, il va falloir. Il y avait un truc qui était intéressant, c'est que dans la partie responsabilité, il est prévu d'amener des ajustements qui pourraient être nécessaires pour clarifier la responsabilité des développeurs d'un côté, et la distinguer de celle des éditeurs de produits. Et justement, le périmètre de la législation pourrait être amendé pour déterminer dans quelle mesure les systèmes d'intelligence artificielle peuvent être considérés comme des produits. Et la dernière partie, la partie gouvernance, elle vient sur comment tu appliques la loi, en fait. Et là, il va falloir un engagement fort de la part des autorités nationales. Il va falloir également probablement une coopération entre eux. Et donc, le plus probable, ce serait que l'approche retenue, elle serait une combinaison des points 3, 4 et 5. Donc, le fait de définir des critères qui soient pour les applications sensibles, la partie sécurité, responsabilité et puis la partie gouvernance. Et donc, effectivement, à Marseille, ce qui se passe, c'est que là, on a le premier recours contre la vidéosurveillance automatisée qui a été déposé par la Quadrature du Net en association avec la Ligue des droits de l'homme pour annuler l'installation à Marseille d'un dispositif de vidéosurveillance automatisée qui, pour l'essentiel, relève d'une surveillance biométrique. Donc, c'est de la détection de comportements anormaux, c'est du suivi de silhouettes ou d'individus, c'est de la captation sonore, etc. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a déjà des dispositifs similaires qui sont installés en France ou qui sont en train de l'être, ce qui est fait dans l'opacité la plus complète parce qu'en fait, les promoteurs considèrent que le cadre juridique de la vidéosurveillance leur suffit, alors que là, avec la reconnaissance faciale ou la surveillance biométrique, on va plus loin que de la vidéosurveillance. En fait, on est dans de l'analyse de comportement et donc, c'est plus du tout le même cadre.
Ouais, notamment, il y en a dans les villes, il y avait, je crois, Toulouse, La Défense, les trucs dans les Yvelines, etc. Donc la CNIL, donc dans l'autre côté de la barrière, donc on a eu la RGPD, et puis pour l'instant on a eu les premières, pas les procès, mais les premières. Enfin, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, mais les premières personnes qui se sont plaintes. Et en tout cas, là, la CNIL commence à dire, voilà, on commence à avoir un tout petit peu de recul. Donc, nous, on va expliquer ce que nous, on interprète de la loi, donc les recommandations qu'on attend des propriétés web, notamment sur, est-ce que je peux être traqué, ma capacité à dire oui, non, qui doit être symétrique et pas des choses du genre oui ou non, mais alors ça va être compliqué, il va falloir cliquer sur 27 trucs.
C'est pareil, en tout petit, en gris, dans le bas de la page, etc.
Alors moi, je le fais tout le temps, mais c'est vrai que je vois d'autres gens
oui,
dans
mais
mon entourage.
C'est pas mis en avant. Et en plus, quand tu le fais, normalement, par défaut, tout est désactivé. La moitié des sites où tu vas vérifier, c'est activé par défaut.
Ouais, ou c'est entre les deux, alors par défaut, est-ce que tu sais pas ce que c'est. Pareil pour... En fait, ça doit être symétrique le temps entre lesquels ils peuvent vous redemander. Est-ce que vous voulez OK d'être traqué ou OK de pas être traqué? Donc aujourd'hui, il y a certains sites qui font ça de manière asymétrique, donc ils vous redemandent. Vous êtes sûr que vous voulez pas être traqué? Et puis une fois qu'on a dit on est traqué, on est validé pour 7 ans. Donc là, ils veulent la symétrie là-dessus.
Et ils précisent également que le fait de ne pas choisir doit également rester une option. Et là, c'est libre aussi
pas
de son cerveau de représenter la bannière.
Du coup, pas traqué, ouais, c'est ça.
Ça. Voilà, ça reste une option et ça doit être pris en compte.
Ouais. Et du coup, donc il y a eu des échanges. Alors d'un côté et de l'autre, des lobbies en l'occurrence, que ça soit vers des gens de type Quadrature du Net ou des gens de type des vendeurs de pub. Et en tout cas. Voilà, la réponse sur l'impact économique, c'est que oui, il y a de l'impact économique, mais qui aujourd'hui est un peu difficile à analyser et qu'il y a de grandes chances qu'il y ait juste un report de la pub ciblée vers de la pub non ciblée en termes monétaires. Et donc, ça soit pas non plus la catastrophe nucléaire imaginée par certains, ou en tout cas décrite par certains.
C'est ça. Et... Un petit détail que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il reprécise que pour les GAFAM, pour les très grosses plateformes, les règles sont les mêmes, que tu sois logué ou pas, ils ne peuvent pas considérer que l'acceptation en bloc des conditions générales d'utilisation vaut consentement. C'est un point que je trouve assez intéressant.
Oui, ça veut dire, redit légèrement différemment, c'est pas parce que vous naviguez sur le site que implicitement vous acceptez. Voilà. Ils veulent séparer ça.
Et alors je te trouve très politiquement correcte dans ta manière de présenter le truc parce que la CNIL elle est souvent prise à partie entre justement les professionnels du secteur qui trouvent que elle surinterprète le RGPD et les représentations de la société civile qui disent bon vous êtes gentils mais ça fait 18 mois que c'est en place et vous avez toujours pas commencé à faire des contrôles. Donc là en gros ils commencent à se dire bon va falloir qu'on joue notre rôle. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que en ce moment, il y a un débat sur la directive e-privacy à Bruxelles, et la CNIL défend l'idée d'un recueil du consentement qui soit fait au niveau du navigateur, plutôt que site par site. Ce qui, bien évidemment, n'enchante pas les professionnels du secteur, mais qui fait l'objet d'une consultation publique de 6 semaines sur le site web de la CNIL. Donc, je vous invite à aller donner votre avis.
Moi, j'attends déjà le changement d'horaire avec mon... Avec, tu sais, le passage à l'heure d'été, heure d'hiver. Pour l'instant, je n'ai pas d'infos. Ouais, si ça vous... Enfin, si vous vous sentez impliqué, allez du coup sur le site de la CNIL, ouais.
Voilà. Et puis en parallèle, ils ont publié un guide RGPD pour les développeurs. Donc, c'est un guide de bonne pratique qui est disponible sous GitHub, qui est sous licence libre. Donc, vous pouvez y contribuer et qui, globalement, va vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour développer en conformité avec la RGPD. Donc, il y a des choses. Alors, c'est assez rigolo parce que je ne vais pas aller lire tout en détail hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de données. Mais il y a 16 titres principaux, on va dire.
Mais tu sais ce que je me suis dit, moi, quand j'ai vu ça, j'ai juste vu les titres. Ça m'a déprimé. Je me dis... Si t'es une petite boîte, t'es là, tu dis, oh, s'il faut que je me tape 3 jours juste à lire les guides pour éventuellement commencer à faire le boulot là-dessus, je suis déprimé.
Ouais, mais tu vois, dans les 16, y a des choses qui, pour moi, n'ont rien à voir avec le RGPD et qui sont juste une base à tout développement. Tu vois, par exemple, il y a gérer son code source où il recommande d'avoir une gestion centralisée du code source. Il y a le fait de maîtriser les bibliothèques et les SDK que tu utilises, de veiller à la qualité de ton code et à sa documentation, de tester vos applications. Tout ça, c'est des choses, pour moi, ça n'a rien à voir avec la RGPD, c'est juste comment tu fais du code de qualité.
Et après, effectivement... Si tu n'as pas mis les obligations de... Enfin, si tu ne respectes pas tes obligations de moyens de protection et qui sont notamment... genre, vous mettez à jour votre JDK, non, on n'a pas de procédure pour ça. Du coup, ton amende pourra être plus forte, en fait.
Ouais, effectivement. Mais pour moi, si tu veux, ça revient. Enfin, pour moi, c'est pas lié à la notion de est-ce que je manipule des données personnelles ou pas. C'est juste est-ce que je fais mon boulot correctement ou pas. Mais bon, c'est effectivement, ça peut se discuter. Et puis après, voilà, il y a des choses comme minimiser les données collectées, informer les personnes, préparer l'exercice des droits des personnes. Donc, je pense que sur ces parties-là en particulier, c'est assez intéressant d'aller voir ce qu'ils recommandent parce que c'est des choses qui sont pas forcément naturelles pour nous. Il y a des aspects qui peuvent nous échapper. Et donc, le guide, je pense, est assez utile.
Ok. Plus rapidement, il y a devant la Cour de justice, il y a quelque chose qui va être rendu sur l'obligation de conservation des données et la surveillance de masse. Donc, on a vu notamment en Europe, en tout cas avec le MI5, le MI6, donc en Angleterre, la collecte vraiment massive d'informations personnelles sans ciblage, sans commission rogatoire non plus, évidemment. Et du coup, sur la durée de conservation de ces données, et du coup, il y a des gens qui ont estimé que c'était pas exactement 100% légal et qui sont montés jusqu'à la Cour de justice pour... donner un rendu là-dessus, et du coup, ça de...
C'est pas... comment dire c'est pas un jugement. Le jugement de la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas encore été rendu. L'arrêt sera rendu dans quelques mois, normalement. Là, c'est plutôt les conclusions de l'avocat général qui ne sont pas impératives. La Cour n'est pas obligée d'en suivre le sens. Mais... elles sont quand même censées donner un petit peu la direction à suivre. Et effectivement, l'avocat général, il rappelle que t'es pas censé collecter comme ça, ad vitam aeternam. Alors, c'est intéressant parce que l'article là qu'on a mis en source vous redonne toutes les données qui sont collectées par les opérateurs de communication électronique, les opérateurs de téléphonie, les FAI, les hébergeurs, etc. Et c'est vraiment, en fait, une source de données qui est énorme. Enfin, on peut retracer votre vie, littéralement. C'est d'ailleurs un exemple qui avait été cité par Isabelle Attard, qui est une ancienne députée, où elle expliquait que, effectivement, même si on n'a pas le contenu des conversations, si on sait que vous avez appelé SIDA Info Service, et puis vous avez appelé un laboratoire d'analyse médicale, le laboratoire vous rappelle 15 jours après, et puis dans la foulée, vous appelez votre médecin, vous restez au téléphone un quart d'heure avec, vous n'avez pas besoin d'avoir le contenu de la conversation pour déduire des des informations qui sont essentielles sur la vie privée de la personne. Et donc effectivement, voilà, l'avocat général. Alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est que là, la Cour de justice de l'Union européenne, elle a été saisie par plusieurs États. Donc, notamment la France, la Belgique, enfin des associations à chaque fois évidemment, mais ou également l'Ordre des avocats francophones et germanophones. Mais donc, c'est des instances au sein de plusieurs États qui l'ont saisie. Et effectivement, voilà, l'avocat, lui, est assez clair dans le sens où on ne peut pas continuer à déléguer aveuglément aux États la rétention sans durée déterminée d'une masse de données pareille. Donc voilà, il va falloir voir maintenant, attendre justement l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne pour voir comment ça se traduit, est-ce qu'il va y avoir des lois mises en place derrière pour le contrôle de ces données. Et c'est toujours pareil, hein, c'est sous le spectre de la menace judiciaire que ces choses-là sont faites, de la menace terroriste, pardon. Mais la menace terroriste, à un moment, elle ne justifie pas de ficher toute la population de l'Union européenne, quoi, de manière aussi claire.
Ouais.
Ensuite, coup d'État sur la loi N. Alors, on a déjà parlé de la loi N dans les épisodes précédents. C'est une loi qui doit réglementer tout ce qui est injures et menaces sur Internet, contenu incitant à la discrimination ou à la haine de quelque nature que ce soit. Alors, il y a eu un amendement de dernière minute qui a été adopté par les députés de la majorité qui la rend encore plus dangereuse. C'est-à-dire que maintenant, la loi exige le retrait des contenus en une heure et non plus en 24 heures, que ça soit toujours sous le contrôle de la police, mais que maintenant, ça ne concerne plus que les plateformes qui ont plusieurs millions de visiteurs par mois, mais également n'importe quelle plateforme de toute taille. Donc, ça peut être un forum, un site de presse, une plateforme militante, etc. Le délai d'une heure, il pose problème parce qu'il est matériellement impossible à respecter pour la majorité des plateformes. Si vous avez un signalement qui arrive pendant la nuit, enfin, voilà. Et ce qui fait que les petites plateformes, elles n'auront pas vraiment d'autre choix que de fermer boutique, ou bien ça va être de déléguer la modération aux outils de censure automatisés qui sont fournis par Google et Facebook, ce qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Et puis, alors que la loi initiale, elle prévoyait que des sanctions financières, là, les nouvelles mesures, elles prévoient que la police puisse également exiger que les fournisseurs d'accès à Internet empêchent l'accès à cette plateforme depuis la France. Alors, pour le moment, j'ai pas trouvé de décision finale parce qu'il y a une bataille entre le Sénat et le Parlement qui fait que le texte est renvoyé entre les deux chambres parce que le Sénat dénonce complètement les dérives de ce texte de loi. Donc, si vous avez des infos dessus, nous sommes preneurs, évidemment. Et je vous ai mis à la suite une tribune qui est signée par plusieurs associations, en fait, donc par Esther Benbessa, qui est une sénatrice, plusieurs militants et plusieurs associations qui reprennent donc ces associations féministes, LGBTI et antiracistes, et qui exposent bien le problème de cette loi, qui explique par exemple que comme le texte actuel prévoit la sanction de celles et ceux qui auraient abusivement alerté sans que l'abus soit défini, en fait, ça va dissuader d'alerter sur les contenus haineux. Voilà. Donc, je vous ai remis ça pour rappel, juste pour illustrer les problématiques du projet de loi.
C'est pas de dissuader, c'est qu'on va avoir plus tendance à lever, à virer les choses qu'à les laisser. En cas de doute, c'est ça que tu voulais dire ou...
Non, c'est que comme tu peux être banni d'une... Enfin, il y a une section. Il y a une sanction qui est prévue pour celles et ceux qui auraient abusivement alerté. Mais comme l'abus n'est pas défini, tu pourrais très bien imaginer une association qui va alerter massivement, sans pour autant qu'il n'y ait d'abus dans les signalements qui sont faits, mais qui va se retrouver sanctionnée parce qu'on va considérer qu'elle a abusivement alerté. C'est ça qui est gênant, en fait.
Mais c'est un juge quand même qui valide ça.
Non, justement. En fait, c'est tout le problème de la loi N, c'est que le juge, il est complètement court-circuité, que c'est la police qui décide. Et c'est ce qui a été dit dans la tribune. Le problème, c'est que des signalements abusifs, il y en a déjà eu de la part de la police. C'est-à-dire qu'en janvier dernier, par exemple, la police française a signalé à Google comme étant raciste une caricature d'Emmanuel Macron sous les traits de Pinochet. Ce qui n'a rien de raciste, hein. C'est du droit à la caricature. Donc, le fait que ce soit remis entre les mains de la police et que les instances judiciaires soient complètement court-circuitées, c'est juste aberrant.
D'accord. OK.
Et ce qui était intéressant, qui était signalé par les associations, c'est qu'en plus, à l'heure actuelle, toute la partie justement d'analyse algorithmique, elle fonctionne très très mal. Et en particulier, elle échoue à différencier un discours de haine contre une minorité d'un discours de lutte contre cette haine. Donc, le fait de déléguer à des outils automatiques, c'est une catastrophe. C'est juste, tu es en train d'instaurer une censure complètement absurde, une censure par l'absurde, si on peut dire. Voilà.
D'accord. Ok, on va passer aux outils de l'épisode. Et il y en a un que j'utilisais, mais je ne savais pas qui faisait tout ça. Ça s'appelle JQ. Et c'est un petit outil de ligne de commande qui permet de manipuler du JSON. Alors, notamment, le truc pour le quoi je l'utilisais, moi, c'était pour rendre le JSON lisible et beau et indenté proprement. Mais en fait, ça fait plein d'autres choses. Ça permet d'en filtrer qu'un sous-ensemble. En fait, ça permet un peu comme le XPath, là, de filtrer un peu les choses, voire d'appliquer des opérations dessus. Donc, on peut lire explicitement une valeur ou une ou avoir un sous-élément du JSON. Lire les tableaux, les sortir de leur structure de tableau pour les passer l'un à l'autre, et on a la sortie en ligne de commande. Et pareil, des opérations de slicing, d'accès par index, d'application de fonctions dessus. Donc c'est beaucoup plus puissant que ce que je pensais. Donc c'est intéressant. Alors moi, je manipule surtout pour la lecture le JSON, mais si vous voulez faire des petites opérations et pas vous taper du grep et d'écrire vos expressions régulières à la main, c'est un outil intéressant. Et il y a un article qui détaille ça pas mal, qu'on a mis en référence. Comment voir et possiblement supprimer les données qui ont été envoyées entre deux services tiers vers Facebook. Par exemple, le monde d'artistes que vous voulez qui vous voit dessus peuvent envoyer des infos à Facebook qui vont agréger ça et donner des informations plus pertinentes de manière globale à leurs clients que ce sont ces boîtes-là.
Ouais. Les fameuses informations qui sont envoyées par les cookies sociaux, c'est-à-dire les petits liens pour partager que vous avez sur tous les sites. Et donc, ce qui est intéressant dans ça s'appelle Off Facebook Activity, c'est disponible en France depuis le 28 janvier. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, ça vous permet de voir en détail quels sont les sites, les applications mobiles, les entreprises qui transmettent des données personnelles qui vous concernent à Facebook. Et à chaque fois, vous allez pouvoir voir le nombre d'informations transmises, la date du dernier envoi.
J'ai regardé sur le mien, du coup, et techniquement, on peut télécharger aussi ce qu'ils ont envoyé, mais du coup, on arrive sur la page générale de téléchargement de tous les trucs que Facebook fait. Du coup, j'ai pas été au-delà, parce qu'après, il faut trier.
D'accord. Après, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet d'effacer votre historique de connexion à des sites extérieurs et d'empêcher de futures connexions entre ces sites, justement, et votre compte. Donc, ça pourra modifier la nature des publicités qui vous sont destinées sur Facebook, mais bon, je pense pas.
Après, comme moi, je n'étais pas logué, j'en avais trois. Voilà. Ouais. Depuis l'histoire. Donc, ça va. Mais j'imagine qu'il y en a qui en ont pas mal plus.
Je pense. Alors, je continue avec la rubrique débutant, avec d'abord un petit guide pour apprendre le Java moderne, qui est écrit par Amy Forax. C'est un guide qui permet de démarrer from scratch, si on connaît un petit peu de C ou de JavaScript. C'est un work in progress, donc ça tourne sur la version 14 de Java, et ça devrait être prêt pour la prochaine long time support, donc qui sera la 17. Et puis, un deuxième outil, alors, pas vraiment pour nous développeurs, parce que nous normalement on sait comment faire, mais un outil que j'ai pensé qui serait intéressant de partager avec votre entourage, c'est comment font les hackers, c'est comment vous protéger du phishing. Donc c'est un article édité par Numérama et qui explique bien justement toutes les techniques qu'utilisent les gens qui font du phishing pour attaquer. Comme je pense que c'est un piège dans lequel notre entourage non geek tombe régulièrement. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Pour terminer, les conférences à venir. Alors, on a le DevFest du bout du monde le 28 février, le Brescamp du 25 au 27 mars, DevOps France du 15 au 17 avril, Serverless Days Paris le 24 avril, Mixit du 29 au 30, GitHub Satellite les 6 et 7 mai, Mixit du 29 au 30 avril, pardon. GitHub Satellite les 6 et 7 mai, Riviera Dev du 13 au 15 mai, DevOps UK du 13 au 15 mai également, Newcraft les 28 et 29 mai, alors tout en anglais, attention. Best of Web les 4 et 5 juin 2020, le DevFest Lille le 12 juin 2020, SonyTech les 2 et 3 juillet 2020 et DevFest Toulouse qui est déjà annoncé pour les 5 et 6 novembre 2020. Et puis, si vous voulez voir encore plus de conférences, vous pouvez aller sur le repository GitHub d'Aurélie où vous avez l'agenda des conférences. Et si vous préférez les N conférences, et si vous n'en avez déjà fait, jamais fait, ben c'est l'occasion de tester. J-Château se tiendra du 11 au 15 mars 2020. Notre ami José nous avait fait un petit crowdcast dans le dernier épisode news, l'épisode 223. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous reporter à l'épisode 223. Et il reste quelques places, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, moi j'y serai. Voilà, et ben c'est tout pour cet épisode news. Je vous dis à bientôt.
Au revoir à tous. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.